Ah, l'automne est particulièrement bien installé. On arrive à la fin du mois d'octobre. On pense aux décorations d'Halloween, aux feuilles qui sont un peu partout. Bientôt, peut-être aussi, hein, les premiers centimètres de neige qui vont s'installer. Et ça, ben, c'est, ça fait partie de la vie normale, tout ce que je viens de vous nommer. Mais... hein? Des fois, ça peut être source de conflits avec certains de nos voisins. Et ben, si on prend cette citation du poète grec Hésiode, hein, « Un mauvais voisin est une calamité, un bon voisin un vrai trésor. » C'est vrai à certains égards. Et là, ben, pour limiter le mieux possible les chicanes de voisinage, il y a la loi qui prévoit des droits et des obligations à respecter. Et pour nous en parler dans le cadre de cette chronique, c'est Sophia Aissaoui, qui est étudiante en droit au Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Sophia, bonjour!
Bonjour Sébastien.
Bon, on peut entrer dans les détails et dans les exemples, mais si on commençait par bien définir, qu'est-ce que c'est un trouble du voisinage exactement?
Alors, les troubles du voisinage, c'est les inconvénients causés par nos voisins. Ils peuvent être de toutes sortes, donc bruit, odeur, poussière et j'en passe. Alors, à moins de vivre sur une île déserte, il est tout à fait normal, un samedi matin, d'entendre le bruit du souffleur à feuilles du voisin. Mais malheureusement, dans certaines situations, ces ennuis peuvent devenir si importants qu'ils nous empêchent de profiter pleinement de notre propriété. C'est-à-dire que ça nous empêche de profiter de la jouissance de notre bien. Et c'est ça qu'on va appeler un trouble du voisinage.
Et qu'est-ce qu'il faut exactement pour qu'on soit en présence d'un véritable trouble de voisinage?
Donc, pour parler du trouble de voisinage, il faut d'abord être en présence d'un inconvénient continu et ou répétitif. Mais il faut aussi que l'inconvénient soit réel et sérieux. Et comme chaque situation est différente, il est important d'évaluer les inconvénients en fonction de leur environnement. En comprenant que les inconvénients qui pourraient être normaux en milieu agricole ou dans un milieu moins densément peuplé pourraient être anormaux en milieu urbain. Mmh. De plus, les troubles de voisinage peuvent aussi porter sur les vues et les droits de passage, de même que sur les arbres et les clôtures. Tout ça peut être source de désaccords entre nous puis le propriétaire du terrain voisin. Mais il faut savoir que les troubles du voisinage peuvent aussi survenir entre locataires d'un même immeuble. Et c'est pourquoi il est important, si vous avez des locataires ou des voisins locataires, d'agir avec diligence et de respecter les règles de conduite en société. Sinon quoi, on pourrait être tenu responsable pour le trouble qu'on cause à nos voisins.
Est-ce que je peux qualifier de trouble de voisinage absolument tous les faits et gestes de nos voisins?
Alors, on a tendance à penser que, à partir du moment où quelque chose nous dérange, on peut automatiquement parler de troubles du voisinage. Mais la réalité, c'est que certains inconvénients du voisinage sont jugés normaux, alors que d'autres ne le sont pas. Et donc, il faut que les agissements du voisin nous occasionnent un inconvénient anormal pour qu'on puisse parler de troubles réels du voisinage.
Dans ce cas-là, est-ce qu'il existe un seuil qu'on pourrait dire de normalité là, pour qu'on doit respecter en tant que voisin? Là, parce que ça reste, on dirait, un peu subjectif comme définition.
Ben, c'est une très bonne question parce que la limite à pas dépasser, elle n'est pas toujours facilement mesurable. Dans certains cas, comme par exemple en matière de bruit, il suffit de consulter les règlements municipaux pour prendre connaissance des heures d'arrêt de bruit en zone urbaine. Mm-hmm. Mais dans d'autres cas, lorsqu'il n'y a pas de règles particulières, les voisins doivent d'abord agir de bonne foi et avec précaution. Ou sinon, cette évaluation va être laissée à un juge s'il y a une poursuite éventuellement. Ainsi, le juge, de son côté, il aura tendance à s'appuyer sur plusieurs critères pour caractériser la normalité d'un trouble. Donc, comme je le disais précédemment, les troubles anormaux préposent une certaine intensité, une certaine répétition. Mmh. Ils doivent être durables et fréquents, puis persistants, et se produire à intervalles réguliers. Pour donner un exemple, si votre voisin, qui est d'habitude calme et respectueux, fait une fête pour Halloween ou célèbre son mariage dans sa cour avec 100 personnes, il se peut qu'il y ait vraiment beaucoup de bruit jusqu'à très tard. Mais on est d'accord que... même s'il y a gravité dans ce cas-ci, il n'y a pas forcément continuité ni intervalle régulier. Mmh. Puis inversement, on voit directement la différence avec la situation où on a un voisin qui fait la fête tous les soirs de façon très bruyante et irrespectueuse pour le voisinage.
Et si, mettons, mon voisin, là, un excellent musicien, joue du saxophone souvent à des heures pas possibles, ça m'empêche de dormir. Qu'est-ce que je peux faire?
Alors, premièrement, vous devez savoir que la plupart des municipalités ont une réglementation qui prévoit le niveau de décibels maximal et aussi une heure maximale pour faire du bruit pouvant nuire au bon vivre ensemble. Donc, il faut se renseigner auprès de notre municipalité pour connaître nos droits et recours. C'est que le voisin pourrait être appelé à corriger la situation sous peine d'amende à payer à la municipalité. Donc, si le règlement de votre municipalité ne prévoit rien, la loi protège malgré tout votre tranquillité. Donc, entre autres, si la musique du saxophone vous empêche de profiter de votre propriété, il peut s'agir d'un trouble du voisinage, mais il doit rencontrer les critères de gravité et de continuité que j'ai mentionnés plus tôt.
Mmh. Là, on est dans le son comme exemple. Imaginons que je dois rénover ma remise. Est-ce que je peux avoir accès au terrain de mon voisin pour le faire?
Alors, vous pouvez avoir accès au terrain du voisin avec son autorisation. Donc, lorsque l'accès au terrain de votre voisin est nécessaire pour construire, entretenir ou encore réparer ce qui vous appartient, votre voisin doit vous permettre d'y accéder. Cependant, vous devez d'abord l'aviser verbalement ou par écrit de la nécessité de vous rendre sur son terrain. Soyons clairs, la loi vous permet d'aller sur le terrain du voisin seulement s'il n'y a pas d'autre moyen pour vous d'effectuer les travaux. Mmh. Donc, le seul fait qu'il soit plus facile ou plus commode pour vous de traverser son terrain ne justifie pas une visite chez le voisin.
OK.
C'est que votre voisin peut refuser s'il considère que l'accès à son terrain n'est pas nécessaire ou qu'il y a d'autres moyens d'effectuer les travaux. Et si, malgré vos précautions, vous endommagez son terrain, ben vous êtes responsable de le remettre en état.
Mmh. Autre cas de figure, là, si j'ai l'impression que ma voisine m'épie, me surveille, est-ce qu'il y a une réglementation sur l'emplacement des fenêtres, par exemple, ou des situations comme celle-là?
Alors oui, vous ne pouvez pas avoir de fenêtre ou de porte à verre transparent à moins de 1,5 m de la ligne séparant votre terrain de celui de votre voisin.
Mmh.
Toutefois, si la vue de la porte ou de la fenêtre donne sur une rue ou un parc, ou si elle est pleine ou faite de verre opaque, cette règle ne s'applique pas.
Okay.
Donc, si vous ou votre voisin avez des portes ou des fenêtres qui ne respectent pas cette règle, vous pouvez corriger la situation en signant avec votre voisin un document chez le notaire qu'on appelle une servitude de vue. Il peut être exigé que vous bloquiez cette vue, généralement avec un filtre qui laisse passer la lumière, mais qui condamne la porte, ou sinon il va falloir la déplacer.
Okay.
Si ce problème peut empêcher ou retarder la vente de votre propriété, c'est qu'il faut prendre ses précautions à l'avance et consulter un notaire.
Si le garage de mon voisin empiète sur une partie de mon terrain, qu'est-ce que je peux faire?
Alors, vous devez d'abord aviser votre voisin que son garage empiète sur votre terrain. Peut-être qu'il sera en mesure de le déplacer, ou sinon vous avez différents choix selon l'importance de l'empiétement et l'attitude de votre voisin.
Oui, c'est important ça.
Donc, partant du principe que si le voisin ignorait qu'il empiétait sur votre terrain, donc il est de bonne foi, et que le garage ne vous cause pas d'inconvénients, vous pouvez exiger deux choses. Alors, soit qu'il vous verse une somme d'argent pour la perte de terrain que vous subissez, ou qu'il achète et qu'il acquiert la partie du terrain pour laquelle il empiète il empiète son garage.
Okay.
Par contre, si votre voisin ignorait qu'il empiétait sur votre terrain et que le garage vous cause des inconvénients importants, ou s'il a volontairement construit son garage sur une partie de votre terrain, vous pouvez exiger qu'il enlève son garage et qu'il remette votre terrain en état.
Mm-hmm.
Puis finalement, pour vous protéger et éviter des ennuis, notamment lors de la vente de votre propriété, vous pouvez consulter toujours un notaire qui s'assurera que ces ententes soient clairement établies.
Si mon voisin a installé ses gouttières de façon à ce que l'eau tombe directement sur mon terrain, qu'est-ce que je peux faire?
Alors, un propriétaire doit s'assurer que l'eau, la neige et la glace qui s'écoule sur son toit ou de ses gouttières tombent sur son propre terrain et non sur celui de son voisin, de sorte qu'il n'endommage pas le bien des autres, dans le fond. Puis, notez encore une fois que la plupart des municipalités ont une réglementation sur la distance que les bâtiments doivent respecter par rapport à la limite de l'eau.
On a donné plein d'exemples. Finalement, qu'est-ce que je peux faire si je subis un trouble du voisinage, là, un vrai de vrai? Là?
Alors, la première solution consiste bien sûr à tenter de s'entendre avec son voisin pour régler le problème de la manière comme la plus rapide au lieu d'aller devant les tribunaux. Puis certaines municipalités comme celle de Gatineau offrent des services de médiation en partenariat avec l'Alternative Outaouais depuis 2006. C'est un projet qu'on appelle « Résolution ». Puis, il permet à des médiateurs bénévoles d'apporter une expertise dans les résolutions de conflits en lien avec, par exemple, les conflits de voisinage. Là, on parle de limites de terrain, neige, animaux, bruit, etc. Ils peuvent aussi régler nos problèmes quand il s'agit de conflits interpersonnels avec le voisin. Donc, si on est dans une situation où il y a des menaces, de l'intimidation, des rumeurs.
Mmh.
Et finalement, ils peuvent aussi régler des problèmes qu'on a par exemple en tant que citoyen avec des instances ou des organismes privés ou publics, comme l'OMH, HLM, etc.
Okay.
Et dans le cas où ce genre de service n'existe pas dans votre lieu d'habitation, vous pouvez toujours avoir recours au service d'un médiateur accrédité. Donc, dans ce cas-là, on irait vers un médiateur qu'on va nous-mêmes payer. Mm-hmm. C'est pas un service offert par le ministère de la Justice. Mais avoir recours à un médiateur puis éviter les tribunaux, encore une fois, c'est toujours la manière la plus rapide et la plus simple de régler nos soucis.
Ça va être moins cher qu'une poursuite régulière, disons.
Oui, 100%. Je voulais aussi ajouter que si le voisin, par contre, décide de ne pas coopérer, pas du tout, mm-hmm. il y a certains voisins avec qui on ne peut pas tenir un dialogue, puis ce n'est pas normal, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est lui envoyer une mise en demeure. Puis finalement, si la mise en demeure ne fonctionne pas et le dialogue ne fonctionne toujours pas, mais on peut s'adresser à une cour pour être éventuellement indemnisé, pour demander que le trouble cesse ou pour obliger le voisin à poser un geste pour régler le trouble.
Oui, ça, on ne le souhaite pas parce que le voisin, il reste là malgré tout, même si on réussit à avoir gain de cause dans tout ça. Sophia, si nos auditeurs ont des questions, s'ils veulent avoir plus d'informations sur le sujet ou d'autres sujets dont on a déjà traité dans le cadre de cette chronique, comment est-ce qu'on procède?
Ben, ils peuvent toujours nous contacter au CJP. Ils peuvent nous joindre au téléphone, c'est au 819-600-4600. Je répète, 819-600-4600. Et nous suivre sur Facebook, Instagram et TikTok. Je rappelle que le service est gratuit pour tous, peu importe vos revenus.
Sophia Issaoui, étudiante en droit au Centre de justice de proximité de l'Outaouais, un grand merci pour ces précieuses informations puis bonne fin de journée.
Merci à toi, Sébastien. À toi aussi.